Salut, bon mardi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Très content de vous accompagner avec Madame Pinchot qui est là.
Good morning.
Tout en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est l'automne.
Tu veux-tu surprendre quelqu'un avec non, ton allure? Sors-tu à soir?
Oui.
Ah, ben, c'est ça.
J'ai un souper ce soir, mais la vraie raison, c'est que je sais pas pourquoi, à chaque fois que la fraîcheur s'installe puis qu'il fait beau en plus, ben, je sors les collants. Fait que là, je vais en abuser cette semaine, tous les jours.
Ouais, j'ai mis ma petite chemise avec un gilet capuchon du Costco.
Ah, c'est le fun, ça.
Ben oui,
Je pense qu'on a la même. Vous êtes une gang de boys à magasiner chez Costco.
Tony m'a dit à ma femme, « l'ai acheté hier! »
Ah oui, voyons.
Hey, je pense que c'est 30$.
Hey, c'est pas cher, pour vrai, chez ça. Costco.
D'habitude, ces chemises-là, c'est des chemises de travail. Là. Ouais. Je les achetais chez Canadian Tire. Puis là, ben, je les ai vus en spécial chez Costco. Fait que ça valait vraiment la peine. Fait qu'on va être une coupe à être habillé de même là, dans les prochains mois. Là.
Vous allez être stylé.
Ouais.
C'est pas.
La mode.
Ah, oh, c'est ça. T'es vraiment un gars à mode.
Ouais, ben oui.
C'est juste que j'en reviens. Tu as compris la base.
Et moi, je reviens à mode, c'est quoi? Au 10 ans à peu près.
Ouais.
Ouais.
Quand la roue revient finalement, puis elle repart à zéro.
Puis là, les gens sont là, puis là, ils ont l'impression qu'ils inventent un style, alors que c'est un style qui existe depuis les années 60.
Mais toi, t'as pas un style. T'es un gars qui porte des jeans, puis un chandail soit gris, soit blanc, soit noir.
Exactement.
C'est la base de la base. On devrait tous faire pareil. Ça serait vraiment moins compliqué, pour être bien honnête, là.
Ouais. Je sais pas, les gars, on est un peu tous de même pour la plupart. Quoi qu'il y en a qui deviennent de plus en plus coquets. Tony est très coquet, là.
Ah oui, on a des collègues qui s'habillent vraiment attention. Bien. Oui. Qui font attention à la marque, à la couleur, au type de chandail. Les polos sont très populaires aussi chez Leclerc Communication.
Ouais, mais ça, c'est des vu que c'est des reps, moi, c'est normal.
C'est plus propre.
C'est un passe-partout, un polo, là.
Je pense que c'est les filles qu'on se donne bien trop de mal pour être bien habillées, pour être stylées puis sortir de l'ordinaire.
Mais c'est ça. Mais vous réussissez à sortir de l'ordinaire. Vous êtes magnifiques, mesdames.
Ouais, c'est épuisant, tout ça, là.
15 degrés sur Québec. C'est un ciel dégagé qu'on a aujourd'hui, puis ça va être ça pour une bonne partie de la journée. Peut-être quelques nuages en fin de soirée, mais maximum de 17 pour aujourd'hui. Ce soir, minimum de 10 degrés. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera nuageux. Quelques averses débutant en mi-journée, un maximum de 16. La pluie intermittente pour ce soir, pour demain soir, pardon, minimum de 13. Jeudi, de la pluie, maximum de 14. Vendredi, ça, le topo a changé. C'est supposé être une alternance de soleil et nuages. Ben là, ce sera nuageux avec un maximum de 21. Et samedi, dimanche, là, ça n'a pas changé. Du soleil pour samedi et du soleil pour dimanche.
Il y a des petits ralentissements si vous êtes sur Guillaume Couture dans les deux directions, à l'approche des ponts. Là, je vous dirais même de la 73 direction nord, à peu près à la hauteur de la 20, il y a un léger ralentissement aussi pour aller chercher les ponts. Si jamais vous y êtes, là, quoi que ce soit d'autre, ben c'est le 418-971-1021.
Y a-t-il un restaurant qui a fermé dans les derniers mois, les dernières années, qui t'a fait vraiment de la peine?
Le Ashton sur la Grande Allée.
Le Ashton sur la Grande Allée. Mais il y en a d'autres Ashton?
Oui, mais c'est pas pareil. Quand tu sortais et tu pouvais traverser au Ashton pour ta fin de soirée, il y avait quelque chose de magique. Non, mais sans blague, je te disais que j'avais un souper ce soir.
Ouais.
Je trouve ça épouvantable. Puis c'est probablement que c'est parce qu'il est mal placé ou je sais pas si c'est le dollar loisir des gens qui est vraiment moins présent, fait qu'on va moins au restaurant. Mais il y a la Piazzetta, le Bourgneuf, qui est fermée hier. Ils ont décidé qu'ils closaient les portes. J'avais une réservation là. J'ai reçu un appel juste avant le show pour nous dire, hey, votre réservation pour 6, va falloir la domper parce qu'on ne peut plus vous servir. Le resto est officiellement fermé. Puis il y en a beaucoup dans la région comme ça qui ferment leurs portes. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas le choix? Bonne question.
De leur loisir, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Peut-être qu'on pourrait poser cette question-là aux auditeurs. Avez-vous moins de leur loisir pour les restos ces temps-ci? 418-971-1021. Moi, c'est le Cosmos sur Grande Allée. Maudit
oh,
que
Dieu.
J'aimais aller déjeuner là.
Oui.
J'adorais aller déjeuner là.
C'était dans le bas du Maurice, dans le fond.
Oui, c'est ça. C'était dans le même immeuble. C'est celui-là qui était en bas. Puis j'allais pas souper là. J'allais pas dîner. J'allais juste déjeuner. Puis l'ambiance était juste parfaite. Tu rentrais là, l'odeur des crêpes.
Les patates sont bonnes, hein?
Oui. Puis on a décidé dans les dernières années de le fermer puis de conserver Cosmos Sainte-Foy puis Cosmos Le Bourgneuf.
Ouais.
Mais Sainte-Foy, je vois encore une fois de temps en temps. Sinon, y a-tu d'autres restaurants qui ont fermé? Quelqu'un qui me dit le Versa. C'est vrai que le Versa, c'est un super de bon restaurant. Ouais. Il n'y avait pas juste des huîtres là-bas, là, mais c'était un très bon restaurant. Puis là, toi, tu me dis que c'est la Piazzetta qui ferme dans le secteur Le Bourgneuf. J'étais allé, je vais souvent faire un tour là avec ma blonde, surtout le vendredi soir. Ma cote au bar, c'est au Archibald. à Sainte-Foy.
Ben oui, ben oui.
Je regarde la clientèle, sérieux, c'est vraiment l'ancienne clientèle du Beaugarde. Toi, tu n'as pas connu le Beaugarde, je pense pas. Mais c'est tous des gens entre, je te dirais, 40 puis 60 ans. Fait que c'est une belle clientèle pour ce qui est du Archibald. Puis par la suite, il y a un band qui arrive. Puis là, ben, les jeunes, ils commencent à se montrer un peu à face. Fait que là, ça devient comme du 25-60. Fait que ça fait une belle grosse clientèle. Ce restaurant-là fonctionne quand même bien. C'est l'ancien Da Giovanni.
Mais c'est ce qui est plus populaire, j'ai l'impression, ces temps-ci, au niveau des sorties des plus jeunes, là, le fait d'aller dans des restos qui se transforment un peu en soirée. Tu sais, je pense à l'atelier, là, je veux dire, qui devient bien jet-set, là, plus l'heure avance en soirée aussi. J'ai comme le sentiment que... Puis là, je dis ça, écoute, honnêtement, je sors plus bien, là. Fait que je suis peut-être vraiment pas la bonne référence, mais j'ai le sentiment que d'aller, mettons, automatiquement danser ou d'aller dans un bar précis, ça se fait beaucoup moins. Du moins, moi, quand je sors, je vais tout le temps dans des restos que je sais que l'ambiance change plus l'heure avance. Exactement.
Le délice,
je peux rester à la même place.
Le délice à Lévis, c'est vrai, c'est ce concept-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là, mais c'est un endroit où le décor est juste exceptionnel. Surtout quand tu es dans le coin du bar, tu te dis, ben calvasse. Quelqu'un a pensé à telle affaire. Hé, encore une autre affaire. T'sais, à chaque fois que je vais là, je vois de la nouvelle décoration que je n'avais pas remarquée, qui était probablement là depuis genre 6 mois, mais il y en a tellement... C'est juste complètement fou.
Il y a des restos qui apprennent à se renouveler aussi. Ouais. Là, si vous êtes restaurateur, 88-971-101, je suis vraiment curieux. Ça va-tu bien? Parce qu'honnêtement, quand tu as des restos même qui ferment... Puis tu sais, l'exemple de la Piazzetta, je veux dire, il y en a un autre dans Charlebourg, il y en a d'autres. Là, j'imagine que c'était vraiment beaucoup une question d'emplacement qui faisait que ça fonctionnait pas particulièrement bien non plus. Mais je trouve ça poche, vraiment. Fait que ce soir, ben, on va changer d'endroit. Là, il y a une game à soir, là. On va probablement aller à Cajou Sport, j'imagine.
Ben, j'ai écouté la game hier. Tu vas là avec qui écouter la game?
Je vais là avec Max qui vient souper avec nous autres, Hello Derry, notre ancien collègue Tom Perrin, Tom Gauthier va être là.
Ah ouais?
Sa blonde aussi. On se retrouve comme une petite gang.
Ils sont venus
de voyage. C'est comme des retrouvailles, c'est ça. Tout le monde en revient de voyage. Fait qu'on se fait des petites retrouvailles de copains ce soir. Là,
C'est clair et net que ça coûte une petite fortune maintenant à sortir. Là. Tu vois, moi, quand je sors avec ma blonde, là, on n'est pas trop des dépenseux, nous autres, là, puis on prend pas là, tout le temps le gros kit là, on se dit hey, on va prendre le filet mignon, tout ça. Ben, tu vois, j'ai pris tartare de saumon vendredi. Un ou deux verres de vin, je pense que c'est 2 verres de vin. Ma conjointe a pris à peu près la même affaire. On a pris une entrée aussi. On est sorti de là à 175$.
Non, ça coûte cher. Puis là, ça dépend de tes intérêts aussi.
Là, ça dépasse le 200. C'est là, mettons 200$.
Ouais. Mais tu sais, moi, je préfère y aller moins souvent. Puis là, ça dépend ce que tu aimes aussi. Là. Y aller moins souvent puis payer plus d'une shot quand je vais y aller pour l'expérience complète. Je préfère ça, mettons, que de prendre du take-out là, de temps en temps ici et là, puis jamais être vraiment satisfaite de mon repas. Là. Je suis vraiment très, très foodie. Fait que tant qu'à sortir, je vais me sortir en grand.
Ouais. Les chums dans la restauration qui me mentionnent qu'il y a plus de gens maintenant qui prennent juste des entrées avec un petit verre.
Oui. Moi, je fais ça des fois, 2 entrées.
Ouais. 2 entrées.
Oui, 2 entrées au lieu d'un repas. Ben, souvent, il y en a effectivement que ça revient moins cher, là, puis dépendamment de ce que tu veux goûter puis prendre aussi. Là. Mais moi, ça va arriver souvent que je vais prendre ce petit truc-là où je vais avoir mangé, grignoté avant. Fait que je vais m'arranger pour prendre une assiette qui est plus petite.
Café dessert avec le petit café alcoolisé, là, c'est pas mauvais non plus. Mais les gens essayent de s'organiser. Moi, je me souviens du temps où tu étais capable de sortir, toi, ta conjointe, pour 100$.
Oui.
Parce que, tu sais, 200, il y en a qui vont dire oh, mais Yann, c'est pas beaucoup 200. Mais moi, je suis un cheap, là. OK? Ça me dérange pas de sortir des restaurants une fois de temps en temps.
Faut que je te présente, mon chum.
Je calcule de façon cheap. Oh oui. C'est-à-dire que quand le repas me coûte 200$ cash, ça veut dire qu'il a fallu que je travaille pour 400$. Parce que sur ma paye, il me reste à peu près la moitié. Bien sûr qu'il y a d'autres choses qui vont me revenir plus tard, mais en bout de ligne, ma paye est amputée de moitié. Donc, le 200$ cash que je donne, c'est 400$ de job.
Fait que pour toi, il faut que ça vaille la peine quand tu sors.
Faut vraiment que ça vaille la peine. Puis tu sais, Archibald, je l'ai nommé. Mais sinon, y a-tu d'autres restaurants que j'ai été manger dans les derniers mois qui m'ont vraiment fait triper? Ben, y en a plusieurs, là, ceux qui sont sortis de l'ordinaire.
Moi, j'aime bien le District Gourmet à Sainte-Foy. Je trouve que la formule est le fun. T'sais, tu peux manger dans n'importe quel restaurant sous un même toit. C'est comme une grande cafétéria riche, mettons, là, si tu veux. Fait que ça te donne.
Ça, non. Moi, ça m'intéresse pas, ça.
Mais non, mais attends, t'es-tu déjà allé, par exemple?
Oui.
Ah, moi, tu vois, j'adore ça. Ta tablette, tu commandes ton entrée où tu veux, ton repas où tu veux, ton dessert où tu veux, ton drink où tu veux. Tu peux te faire une facture à 50$ comme à 400$, là. C'est toi qui choisis, là, tu sais.
Non, j'aime mieux. Non.
C'est trop de monde pour toi, si tu sais.
Peut-être,
Je comprends.
Ça bouge trop. Le gros restaurant où j'ai été manger il y a de ça quelques mois, j'en avais parlé en nom, c'est la Sagamité.
Ah, oh, mais ça, c'est fantastique.
C'est une expérience.
Ah, vraiment.
Je peux pas, j'ai pas les moyens d'aller là à chaque semaine.
Ouais.
Quoi qu'il y en a qui vont me dire, ben c'est pas si pire sur le menu midi, exemple, et vous avez entièrement raison, mais sa gamité, on s'est payé la grosse coche. Là.
Oui.
Mais je vais m'en souvenir toute ma vie.
C'est avec les viandes qui pendent, ouais. Là, que tu flambes. Puis, là, j'ai fait ça aussi il n'y a pas longtemps. Mais ce qui est trippant, par exemple, dans des restos de même, c'est que tu peux autant manger familial à petit prix que tu peux prendre des affaires plus chères. Fait que, tu sais, quand je dis que les restos se renouvellent aussi, j'ai l'impression justement qu'on fait une diversité dans le menu pour permettre à peu près n'importe qui de pouvoir venir manger s'ils le veulent. Mm-hmm. Puis c'est fou parce qu'il y a des restaurants aussi qui étaient à plus petit prix dans le temps. Tu sais, je pense à Saint-Hubert là, qui est rendu avec un sapré beau menu. Tu sais, moi, Saint-Hubert, c'est le seul restaurant où on allait manger quand j'étais jeune parce que ma mère, avec ses allergies, c'était le seul endroit où elle pouvait aller. Fait qu'on le vit évoluer en petit pépère. Là. Mais tu sais, Saint-Tube, il y a une époque où ça coûtait vraiment pas cher. Il n'y avait pas trop de choses non plus sur le menu. Tu étais restreint au poulet. Aujourd'hui, le menu est pas mal plus grand. Là. Puis les classiques sont encore là, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est le fun aussi. Là.
Quelqu'un me dit 1093 de Sainte-Marie, c'est un genre de mini-archibald. Effectivement, c'est un bon petit restaurant. On sortait dans le temps à 100$ au resto, oui, mais on gagnait 15 à 17$ de l'heure. C'est vrai.
Ah, c'est un bon point aussi, là.
Manoir du Spaghetti sur Saint-Louis. Il est plus là.
Il est disparu. Il est disparu.
C'est vrai que c'est un bon restaurant.
Ah non, ça fait mal au cœur quand tu perds tes petits classiques, honnêtement.
C'est ça. Puis tu sais, il y en a que ça leur fait mal au cœur, le verre de vin à 20$. Hé,
hey, mais ça, c'est épouvantable, là. Puis ça, là, moi, la première fois que j'ai pris un verre de vin à 20$, là, c'était ici, pas loin dans le Bourgneuf, puis je n'aimerais pas de restaurant, là. Mais j'ai été surprise. J'ai été surprise de la montée des prix. Parce que c'est pas beaucoup, là. C'est genre un 4-5 onces à peine qui, ouais, te donne dans ton verre, puis t'es déjà à 17$ le verre, là. Rendu là, prends une bouteille, là. Ça te revient moins cher, là. Mais non, les prix ont franchement augmenté. Faut que tu surveilles ton budget.
Parce que, tu sais, un verre de vin à 20$, ça peut être surprenant, mais en même temps, faut que tu regardes où t'es aussi. Tu sais, la bâtisse coûte quelque chose. L'emplacement vaut quelque chose, l'expérience que tu vas vivre, le décor, le staff qui est là pour te servir, qui est tout le temps au petit soin, ça vaut quelque chose.
Mais ça, tu viens de dire quelque chose d'important.
Tu me dis le secteur Le Bourgneuf, faut vraiment que tu me surprennes par le restaurant.
Bien, tu viens de dire quelque chose pour moi qui est super important. Honnêtement, là, j'ai le portefeuille lousse quand je vis une expérience le fun. Fait que si le staff est le fun, ouais, si j'ai passé un beau moment, que le service a été écœurant, tu comprends, que j'ai trippé, ça me dérange pas que mon vendredi m'ait coûté 200$. Je me dis, je vais me serrer à la ceinture dans les prochaines semaines. Ce qui est fâchant, par exemple, c'est quand tu vas dans des restaurants puis c'est difficile d'avoir un contact avec le serveur, que tu te dis que finalement, tu aurais peut-être dû te faire une bonne bouffe à la maison en chum, ça serait revenu moins cher puis ça aurait été plus trippant. Là, ça vient vraiment fâchant.
Mais tu vois, non. Moi, j'aime mieux au restaurant
moi, ça m'insulte.
Entre amis.
Oui, mais c'est un service de merde. Ça vient pas te choquer, toi? Moi, c'est viscéral, ouais, comment ça me vire à l'envers.
C'est rare, j'ai vraiment un service de merde.
Ah, mais ça m'est arrivé quelques fois, Nathan, ouais, et moi.
Je dois pas sortir assez souvent.
Mais en même temps, t'as tes endroits, Yann. Tu sais, je veux dire, t'as,
ouais,
t'as,
c'est
t'as
ça.
Tes
je
endroits.
Même
exact.
Place.
Quand t'essaies des nouveaux restos, il y a ça qui vient avec aussi. Là. Ouais. Tu te mets un peu.
J'étais un vieux modèle. Fait que je vais tout le temps aux mêmes places, tout le temps des valeurs sûres. Mais tu vois, avec des amis, puis avec ma conjointe, je préfère aller au restaurant. Il n'y a pas de vaisselle à faire, il n'y a pas de préparation à faire. T'es tout le temps assis à la table plutôt que de tout le temps être dans ton frigidaire, dans les armoires. T'as-tu besoin de quelque chose?
Ouais.
T'sais, c'est le fun une fois de temps en temps, mais avec les convives, là, j'aime mieux être assis puis que tout le monde se fasse servir puis qu'on soit tout ensemble.
Ah, moi, tu vois, ça dépend. Aujourd'hui, il existe tellement d'affaires. Là, et on a un client ici qu'on vous a déjà présenté en onde. Ça s'appelle le Armand. Puis eux autres, c'est comme une genre de, je vais dire boucherie, là, mais ils préparent des planches puis des repas toutes faites en boîte. Fait que, tu sais, mettons, là, tu reçois à la maison, puis tu veux faire une fondue, puis c'est le chiard parce que là, il faut que tu achètes, tu comprends, des pots de sauce, puis des ci, puis des ça qui vont traîner dans le frigo pendant 3 semaines. Bien, eux autres te font les portions justes de ce que tu as besoin pour ton repas, tes entrées, tes planches. Fait que ça devient facile aussi de plus en plus avec plein d'entreprise dans la région, de se faire de quoi à la maison qui est simple, qui coûte pas trop cher, t'sais. Mm-hmm. Si le restaurant, mettons, vous va pas, là, il y a des gens qui nous disent par texto, garde ton budget resto, puis va une semaine dans le sud. C'est pas fou non plus. Si tu rediriges ton dollar loisir,
là. Mais tu réussis encore à aller pour 1000$ dans le sud? Hey, parce que là, moi, je suis là-dedans. Je suis en train de regarder un voyage là, au mois de décembre, puis ils sont tous autour de 3000.
Mais moi, je viens de booker, tu vois, puis on trouve qu'on a une aubaine, là, puis ça nous a coûté 1900.
Ouais. Alors là, on a dit, ah, mais on pourrait peut-être essayer Cuba. Moi, c'est non. Là. J'encourage, je pourrais pas ce régime-là. Puis en plus, si tu vas là, tu t'attends à
la
être...
La bouffe est dégueulasse.
Ben, tu sais, des fois, tu peux être chanceux, mais des fois, tu peux être vraiment malchanceux. C'est, ouais, les plus belles plages, soit dit en passant. Oui. Le staff est juste écœurément gentil. Là. Tout le monde est fin. Mais c'est ça. T'sais, tu te lèves le matin, tu sais jamais ce que tu vas avoir pour déjeuner. Des fois, ça se peut que tu sois considéré comme un roi, puis l'autre fois, tu te lèves, puis il n'y a absolument rien.
Il reste à peine d'ananas, puis il goûte pas bien bon.
1000 piastres, on dirait que je n'embarque pas là-dedans. Fait qu'on regarde un peu pour le Mexique. Là.
Ben Mexique, oui, mais tu vois ça, moi, j'ai regardé pas mal dans les dernières semaines. Puis là, ben, matin, quand je me suis levée, puis j'ai vu dans le journal que Cancun était rendu le spot de tous les criminels, j'étais contente de ne pas être allée au Mexique.
Oui, mais quand t'es dans le coin des touristes, t'as pas de tour.
Ah non, moi, ça me stresse, ces affaires-là. Ouais, moi, j'aime sortir en toute tranquillité, avoir la peine dans ma tête.
Dans le coin des touristes, t'as pas de trouble, tout est sécurisé.
Ouais.
Il arrive des fois des petites bad luck, là, mais tout est sécurisé.
C'est ça, je veux pas prendre la chance d'une bad luck.
Même en ville, il y a plein de touristes qui sont là. Il y en a pas de danger. Mais les Québécois, je veux dire, il y a de la criminalité ici, là aussi. Là.
Oui, je sais, mais de la criminalité ici, je parle français puis je connais mon monde. Okay. Tu comprends?
Vaut mieux se faire tuer par un criminel qui parle français
que par
un criminel qui parle espagnol.
Je sais que je peux appeler le 911. J'ai des possibilités là-bas. Dis-moi, c'est quoi le numéro d'urgence? J'ai aucune,
911.
Aucune idée. Mais non, c'est pas 911. C'est pas le même numéro partout dans le monde. Là.
Essaye-le donc, hein? 911 Mexico.
Je te dis que ça marche pas de même.
911 Mexico.
Appel d'urgence. Écris appel d'urgence. Tu vas voir, ça va te sortir des numéros dépendamment de tes dans le monde.
911 Gobierno.
C'est, eux autres, c'est 9-1 aussi?
Oui.
Parce que t'as vraiment des places, je pense que c'est en Europe où c'est genre 8-1-1.
Au
ou...
Mexique, le numéro d'urgence principal est le 9-1-1, Audrey. Fait que tu vois, déjà là, tu te sentirais comme chez toi.
Gars, tu vois, mettons, en Europe, c'est avant le 1-1-2.
Avant de mourir, mais tu te sentirais comme chez
ben
toi.
Ben oui, c'est vraiment le fun, je serais vraiment bien. En espagnol. Non, par favor!
Fait que là, ton voyage, t'as coûté quoi? 2000?
Il m'a coûté, ouais, mettons, là, avec les assurances, toute la patente, ça va nous revenir à 2000.
Puis c'est-tu un 5 étoiles?
Oui,
au moins,
c'est un 5 étoiles, mais tu sais, on n'a pas eu le choix de faire des concessions dans la mesure où nous, au début, on visait, par exemple, Jamaïque, Mexique, puis finalement, on s'en va en République, là. Puis on est chanceux, tu sais, l'agente nous a vraiment trouvé un beau spot, avec une belle plage, puis on est vraiment content d'où on est. Mais tu sais, mettons, il a fallu qu'on descende nos critères de base, là. Au moins, on sait que l'hôtel est vraiment un bel hôtel.
Mais tant que c'est propre.
Oui, oui, 100%. Mais tu sais, mettons, on a appris que c'est super niaiseux, on va me dire, là, c'est ridicule, mais les bars ferment à 11h. Là, nous autres, on y va quatre amis.
Mais les bars de l'hôtel, c'est normal.
Mais les bars de l'hôtel, puis tout... Ben non, moi, j'étais allée dans des resorts où ça ferme à 3h du matin, il y a des petites discothèques sur place.
Il peut y avoir une discothèque peut fermer à 3h, il n'y en a pas, c'est ça.
Oui, j'ai un casino.
Là, parce que les bars extérieurs de l'hôtel, c'est normal qu'à 11h, c'est fini, parce que sinon, la musique, ça s'entend jusqu'au 2e, 3e étage.
C'est ça, mais là, ça fait qu'on a coupé dans ce qui nous faisait un peu plus triper, puis on s'est dit, regarde, au pire, on se reposera.
C'est tout.
Ça sera ça le plan, puis c'est tout.
Bon. Hey, nous autres, on débute ça en musique avec Sarah Dufour, Baseball sur les zones de boulevard. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre. On va parler d'un sujet incroyable.
Ah, moi, pour c'est, vrai, là?
C'est un phénomène qui est parti sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé un petit peu sur les zones de boulevard. Je vais parler de Wade Wilson. Deadpool, là,
non,
mais
non, non.
Wade Wilson, c'est vraiment son prénom et son nom de famille. Ce gars-là, c'est un tueur. Tué deux femmes. Et
cruellement.
Il a été jugé pour avoir tué ces deux femmes-là, effectivement. Mais il est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux de par son apparence. On parle d'un gars de 6'4", 6'5", un beau visage, mais tatoué d'un côté, squelette.
Ouais.
Et de l'autre bord, il y a des petits signes nazis.
Oui, c'est un peu particulier.
Et
là.
Toutes les filles qui écrivent sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas ce genre-là, sentez-vous pas concerné, mais toutes les filles qui écrivent sur les réseaux sociaux concernant Wade Wilson sont complètement en amour avec cet individu-là qui est un tueur sanguinaire. Là.
Oui, oui, puis c'est pas le premier phénomène. On peut penser à Ted Bundy ou tout autre meurtrier dans l'histoire. Là. Ça s'appelle libristophilie, ce phénomène-là. Donc, les femmes qui ont une attirance morbide envers les criminels. Comment ça marche dans le cerveau? Pourquoi? On dirait que j'ai mille une question. Je me demande s'il y a une influence aussi des séries puis des films qu'on peut regarder. Tu sais, les fameux bad boys.
Ouais.
Je pense que la distance fait que les filles réalisent pas à quel point c'est un criminel qui est vraiment dangereux.
Le syndrome de la mère Teresa.
Ah,
moi, je vais le changer. Moi, il me tuera pas.
Ouais,
moi,
c'est
il me battra pas.
Ça. Faut vraiment être niaiseuse. Le pire, c'est que... Puis écoute, j'en reviens pas que je dis ça, mais c'est vrai que c'est un beau gars. Puis il y en a des beaux criminels.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il faut s'approcher puis qu'il faut les aimer. Là.
Mais ce qui est curieux, c'est que quand il était Wade Wilson, qui n'était pas le tueur, ça n'avait pas l'air à marcher, son affaire. Là.
Non.
De ce qu'on comprenait. Là.
Pas autant.
Mais là, maintenant qu'il a obtenu une certaine popularité sur les réseaux sociaux, les filles sont toutes en pamoison.
Puis ils faisaient des petits sourires en cours. Fait que tu comprends que les shots qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, là, écoute, il y a des filles qui font des montages de lui au ralenti. Puis c'est épouvantable.
Ouais.
C'est vraiment épouvantable. Fait qu'on va parler de ça, effectivement. Puis on va parler aussi des psychopathes et des sociopathes.
Oui.
Parce que, on en parle depuis une couple de semaines. On en parle depuis une couple de semaines, ça nous fascine. Fait qu'on va démystifier ce que c'est exactement. C'est-tu dangereux? Comment tu repères ça, des gens psychopathes? Qu'est-ce que ça change?
Ça va être le temps de penser à certains de vos collègues.
Exact.
En tout cas, nous autres, on l'a fait. 418-971-1021, on s'en va en musique avec Sarah Dufour, Baseball. 10h26, vous êtes dans l'open mic jusqu'à 11h30. Par la suite, ce sera Marceau le midi. Pascal CV viendra se joindre à nous. Denis Gravel s'amène avec Audrey Pinchot et Véronique Bergeron à partir de 14h jusqu'à 18h. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, avec nul autre que Jocelyne Cazin.
Oh!
Hein? Qui est auteure, qui est une ancienne journaliste, une femme qu'on a connue dans l'univers télévisuel pendant des décennies et des décennies. Donc, elle sera avec moi à partir de 18h. C'est à ne pas manquer. Bien, hâte de lui jaser. On vous parlait de ce fameux Wade Wilson qui a été condamné à la peine de mort pour avoir tué deux femmes en 2019. Et le gars est devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux, entre autres sur le TikTok, là,
oui.
Le TikTok qu'on vous parle régulièrement. Et on se posait des questions à savoir, mais pourquoi des jeunes femmes tombent en amour avec ce genre d'individu-là? On vous le décrit physiquement, malgré le fait que c'est pas si important que ça, un genre de 6 et 5, un beau sourire, un gars tatoué d'un côté du visage avec le visage d'un squelette et de l'autre côté, un signe nazi avec peut-être, si je me trompe pas, des faux points de suture à côté de la bouche.
Ah, mais tu sais, il y a la gueule là, du bad boy, là, tu comprends, mystérieux. Puis je veux dire, on fait des montages de lui qui amènent cette impression-là aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a des killer groupies qu'on appelle.
Les killer groupies!
Des killer groupies qui trippent bien raides, qui vont même jusqu'à écrire au juge pour que le juge soit clément dans sa peine. On dit qu'il y a eu un passé difficile. On envoie des lettres à Wade Wilson, des photos explicites, des demandes en mariage. C'est complètement capoté de te dire... En fait, dans ma tête, ces jeunes femmes-là sont pas saines d'esprit. Il faut vraiment pas que tu réalises pour t'embarquer là-dedans. Mais on appelle ça des killer groupies. Et ce phénomène-là s'appellerait libristophilie. Donc, le fait d'avoir une attirance morbide envers les criminels.
Ça nous prenait un point de vue professionnel. On a eu le goût de jaser avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre. Monsieur Chamberlain, bonjour!
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce phénomène-là, est-ce que vous l'avez déjà étudié? Est-ce que vous avez déjà reçu des gens comme ça qui sont dans votre bureau en disant « Docteur Chamberlain, moi, je suis en amour avec des psychopathes? »
En fait, ces gens-là ne consultent pas. C'est un peu ça le problème. Ils ne sentent pas qu'ils ont un problème à régler. Donc, ils ne sentent pas le besoin de consulter. Fait qu'on ne les voit pas vraiment. Par contre, c'est un phénomène qu'on peut voir assez régulièrement. Là, ça fait les manchettes parce que c'est comme quelqu'un qui est plus dans les réseaux sociaux en ce moment.
Ouais.
Mais c'est un phénomène qui est connu. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente de la peine de mort. Donc, ils n'ont aucune possibilité de sortir rien, puis ces gens-là reçoivent même des demandes en mariage. Il y en a qui se marient. C'est un phénomène qui est quand même particulier. Je l'avais vu, moi, personnellement, avec Magnota, qui était même homosexuel dans ce temps dont il se présentait, et il y avait des jeunes femmes qui faisaient la ligne au procès pour être les premières en avant. Il y avait son fan club. C'est particulier. Ça peut être difficile à expliquer, mais une des explications qu'on a, c'est que ces femmes-là, premièrement, il y a une espèce de sentiment de puissance qui se dégage de ces gens-là, des gens qui ont déjà tué, des bad boys, et c'est comme si ces gens-là allaient nous protéger si on était en relation avec eux. Ce qui est totalement faux, parce que la violence de ces personnes-là peut facilement et plus facilement se retourner contre le conjoint, la conjointe, que contre n'importe qui. Le risque est beaucoup plus grand pour ces femmes-là. L'autre chose, c'est que ces femmes-là ont tendance à penser qu'elles vont sauver ces personnes-là, que c'est parce que ces personnes-là n'ont pas été assez aimées qui ont tourné comme ça, et elles vont tellement les aimer qu'elles vont les changer.
La mère Thérèse.
C'est un peu ça. Et c'est une illusion complète de penser qu'on peut changer ces personnes-là. Oui, ces personnes-là vont parfois attirer beaucoup de sympathie quand on connaît leur histoire, quand on se dit « oui, c'est pas de sa faute, il a vécu ça, s'il y avait eu l'amour qu'il aurait mérité, il aurait tourné autrement ». Mais malheureusement, c'est plus une question d'amour. Ces gens-là, ils ont beau recevoir l'amour qu'ils voudront, au stade où ils sont rendus, ça prend plus que ça pour les changer.
Docteur Chamberlain, dans le cas de Wade Wilson, c'est un gars qui est extrêmement violent. Entre autres, je lisais pour une de ses victimes, là, il l'a écrasé pas juste une fois, il a passé dessus au moins 10 fois avec son véhicule pour être sûr et certain que la femme qui passait sous son véhicule allait décéder. Cet individu-là semble être sans remords. Est-ce qu'en psychiatrie, ça existe, le mot psychopathie? Est-ce que c'est une maladie en psychiatrie?
En fait, non. Le terme psychopathie est pas vraiment. Il y a toutes sortes de définitions. C'est pas précisément défini. Ce qu'on a en psychiatrie, le diagnostic, c'est des antisociaux. Une personnalité antisociale, c'est très bien défini, et c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas en société. Donc, quelqu'un pour qui les règles de la société n'existent pas. Elles existent parce qu'il veut pas se faire prendre là, mais il n'y a aucune conscience sociale et les autres autour de lui sont comme des objets qu'on peut utiliser. Évidemment, il y a les lois, donc il va, c'est pas quelqu'un qui est pas intelligent, là, il va faire attention pour respecter les lois. Mais les autres personnes, c'est comme si c'était des objets dont on peut se servir. Donc, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune culpabilité après avoir fait quelque chose. Évidemment, il y a divers degrés pour être antisocial. On peut avoir juste des traits antisociaux, mais à partir du moment où on a un trouble de personnalité sociale, la personnalité se change à peu près pas. Ces gens-là consultent pas non plus. Donc, c'est des gens qui peuvent être extrêmement dangereux et pas fiables. À ne pas confondre avec les gens asociales. Asociales, c'est des gens qui aiment pas être en société. C'est soit des gens qui sont gênés ou un peu ermites, qui préfèrent être seuls qu'avec d'autres. Donc, asocial, c'est ne pas même... aimer être c'est... en société. Et antisocial, c'est ne pas respecter les autres en société.
C'est quand même pas pire, Dr. Chamberlain, de le préciser, parce que je me disais que dans mon entourage, j'avais une couple d'antisociales. Je commence à être inquiète.
faut pas les appeler comme ça. Et il y a une autre composante qui peut s'ajouter aussi, qui s'ajoute, d'après moi, dans l'individu dont on parle, c'est toutes les perversions. La perversion, là, on parle de libido, on parle de ce qui va exciter un individu. Et quand on tombe dans le sadisme, quand les gens sont excités par la souffrance qu'ils vont imposer à quelqu'un d'autre, par l'humiliation qu'ils vont générer chez quelqu'un d'autre, là, ça devient dangereux. Encore là, il y a différents degrés. Mais ceux que j'ai vus, malheureusement, il y a une espèce de tolérance qui se développe, il leur en faut toujours un peu plus, et ça peut finir par faire des tueurs en série qui vont vraiment sadiser, faire souffrir les victimes avant de les tuer, et qui ne vont les tuer que pour le plaisir de les voir souffrir. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Fait que oui, on peut être antisocial, mais si en plus de ça, on a une composante sadique, ça devient extrêmement dangereux.
Puis c'est quoi la différence entre un psychopathe autrement appelé antisocial, dont on parlait, puis un sociopathe?
Encore là, il n'y a pas vraiment de différence. Sociopathe, c'est quelqu'un qui a la difficulté à fonctionner en société. C'est un terme plus large qui implique pas nécessairement que les gens vont être dangereux. Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique. On donnait ça comme exemple il y a longtemps, qui a de la difficulté à fonctionner, à s'intégrer dans la société à cause d'un problème. Bien, il y a, c'est de la sociopathie, c'est de la difficulté à être en société, mais à cause d'un autre problème. C'est pas nécessairement des gens qui vont être des psychopathes. Maintenant, les psychopathes, la façon dont c'est défini, je ne sais pas si précis que ça parce qu'il y a comme plusieurs définitions, mais c'est un terme qui est quand même très utilisé. Il y a des échelles pour mesurer le degré de psychopathie et je dirais que maintenant, on l'utilise pour quelqu'un qui serait à la fois antisocial et qui a une composante où il prend plaisir à voir les autres souffrir. Là, on aurait vraiment un psychopathe.
Est-ce que ça se guérit?
Malheureusement, non. On est dans le domaine de la personnalité. C'est comme si vous vous demandiez, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un qui est gêné? Si on prend une personnalité de quelqu'un qui est gêné, on peut atténuer ça, mais la personne va toujours rester avec sa personnalité dans une situation imprévue, mais son réflexe, quelqu'un qui est gêné, ça va être reculé. Fait que oui, on peut atténuer les traits de personnalité, mais encore, faut-il que la personne vienne consulter et qu'elle veuille changer, veuille comprendre pourquoi elle est comme ça, et qu'il y a un désir réel de travailler pour ne plus être comme ça. Et malheureusement, les antisociaux consultent à peu près jamais pour ça. Parce que dans leur tête, à eux, c'est pas eux le problème. Pourquoi il y aurait un problème si la société est à leur service? Ils n'ont aucune culpabilité à faire ce qu'ils font. Donc, ces gens-là consultent rarement.
Je fais un gros raccourci intellectuel, mais est-ce que les criminels sont souvent psychopathes de base?
Je dirais pas psychopathes, parce que psychopathe, habituellement, c'est comme une coche de plus qu'antisocial. Mais antisociaux, souvent. souvent. Il y a des criminels d'occasion. Si vous laissez traîner un portefeuille, quelqu'un peut savoir à qui le portefeuille appartient, va le prendre quand même. Il y en a qui vont aller directement le voler dans votre poche. Fait qu'il y a des criminels qui vont se faire prendre plus par occasion, des fraudes, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui va aller chercher directement le portefeuille dans votre poche sans se soucier des problèmes que ça va vous causer, on commence à parler de quelqu'un dans tout ça.
Dans les séries hollywoodiennes, Dr. Chamberlain, j'imagine que vous écoutez des films et des séries tout comme nous, là, mm-hmm. on présente souvent ces individus-là comme des gens extrêmement intelligents. Est-ce que la science s'est réellement penchée sur le quotient intellectuel de ces criminels-là?
Écoutez, c'est un biais de sélection. Par définition, un tueur en série va être un peu plus intelligent parce qu'il a réussi à tuer plus qu'une personne sans se faire prendre. Il y a probablement plein de tueurs en série potentiels qui en ont tué juste un, donc c'est pas des tueurs en série. Donc effectivement, si quelqu'un réussit à fonctionner en étant antisocial, sans trop se faire prendre, ou en se faisant prendre après un certain temps, veut pas, pour qu'il y ait une intelligence qui est assez présente pour réussir à avoir déjoué les systèmes. Mais ça n'a aucun rapport avec l'intelligence dans le fond. Un antisocial moins intelligent va se faire prendre tout de suite, puis va faire moins de dégâts. Un antisocial plus organisé peut monter des fraudes, peut amener d'autres personnes à agir à sa place, peut faire plein de choses sans se faire prendre.
Je veux qu'on reste dans la catégorie des films et séries, puis revenir un peu à l'hybristophilie. C'est-tu le bon terme en passant? J'ai vu ça sur Internet, mais il ne faut pas craindre tout ce qu'on voit, là.
Non, oui, c'est le bon terme.
OK, bon.
C'est très, très rarement utilisé.
Bon, bien, parfait. J'essaie d'avoir l'air intelligente ce matin, Dr. Chamberlain. Je veux revenir aux films et séries parce que je me demande si ces films-là, ces séries-là ont un rôle à jouer psychologiquement dans la réaction des femmes, justement, qui ont un intérêt envers... l'homme, justement, qui a peut-être des traits psychopathes antisociales ou les tueurs dans notre monde réel, là, on dirait qu'on aime leur apporter un mystère.
Oui, peut-être un peu, parce que aussi, justement, pour pouvoir faire une série, pour pouvoir avoir un personnage qu'on va suivre, faut le rendre quand même intéressant. Et c'est jamais comme dans la réalité. La série qui a un peu parti tout seul, on pourrait penser à Dexter. Dexter, un tueur en série, qui ne peut pas s'empêcher de tuer. On pourra rarement... le personnage qu'il a fait dans le film ne peut pas exister. Il a fait une espèce de super-héros tueur en série, dans le sens qu'il ne va tuer que des méchants sans tuer d'autres personnes. Le problème avec, justement, quelqu'un comme un tueur en série comme ça, qu'on le voit bien dans le Dexter, c'est quelqu'un qui va prendre plaisir à tuer, qui va prendre plaisir à faire souffrir les autres. Donc, ça va être extrêmement difficile à ce moment-là de ne trouver que des cas où il pourrait réussir à ne tuer que des personnes néfastes pour la société ou des gens que la justice n'a pas été rendue. Ça se peut pas. Donc, ces gens-là ont un potentiel agressif qui va se manifester aussi ailleurs. Si on aime voir souffrir les autres, ça ne se manifestera pas uniquement quand on agit dans un geste d'éclat une fois par année. Ça va se manifester ailleurs aussi dans la société. Donc, le personnage lui-même est à peu près impossible.
Est-ce qu'on a des statistiques concernant les antisociales ou les psychopathes dans notre société? Est-ce que vous avez déjà entendu un genre de 2-3%? Est-ce que ça pouvait encore ressembler à ça?
Oui, tout à fait. Ça dépend de la définition qu'on va donner. On parle plutôt de... Parce qu'on peut avoir des traits sans avoir la personnalité comme telle. Comme on est tous un peu gênés dans certaines circonstances, sans dire qu'on a un trouble de personnalité évident qui fait que notre gêne nous empêche de fonctionner, nous empêche de postuler pour un emploi. C'est un peu la même chose pour la personnalité antisociale. Il y a des gens qui ont des traits. À partir du moment où on a le trouble de personnalité antisociale, qu'on ne peut pas s'empêcher d'agir comme ça, ça tourne autour de 1 à 2% de la population.
Est-ce qu'un antisocial peut réussir à évoluer en société tout en mettant son masque en agissant par mimétisme? C'est-à-dire, lorsqu'un enfant décède, il est capable de pleurer même s'il ne ressent absolument rien parce qu'il sait que pleurer dans ces circonstances-là, c'est bien vu auprès des autres?
Absolument. Ça ne veut pas dire que ces gens-là peuvent pas avoir de la peine, parce que s'ils ont des pertes eux-mêmes, s'ils ont des deuils à faire, ils vont avoir de la peine. Mais d'utiliser quelqu'un, ça les dérange pas du tout. Donc, ils peuvent aussi avoir de la peine. Et effectivement, c'est des gens que plus ils sont intelligents, plus ils vont pouvoir justement fonctionner et manipuler les autres. Il y a même des études qui montrent que malheureusement, les antisociaux à qui on fait de la thérapie peuvent devenir de meilleurs antisociaux parce qu'ils comprennent vraiment ce que les autres attendent d'eux. c'est ça. Mieux manipuler ce que les autres attendent d'eux, c'est quoi de la compassion, c'est quoi de la culpabilité, comment l'exprimer. Fait qu'effectivement, il faut faire attention parce que si on fait de la thérapie, ils peuvent devenir des meilleurs antisociaux.
Puis mettons, là, Dr Chamberlain, là, comment on fait pour repérer ces gens-là?
Encore là, c'est très, très difficile parce que si on parle d'un vrai antisocial, là, ces gens-là n'ont aucune culpabilité à mentir, par exemple. Donc, si on prend les détecteurs de mensonges, c'est basé uniquement sur le stress qu'on a à savoir qu'on ment. Donc, il y a comme 5 paramètres qui sont mesurés. On pose des sortes de questions et là, on voit quand la personne ment ou pas. Et après ça, on pose les questions là, sur lesquelles on va avoir des vraies réponses. Mais un antisocial n'a aucun stress à mentir. Donc, il ne sera pas plus stressé. Donc, les détecteurs de mensonges ne marchent pas. Donc, c'est très facile de se faire berner. Il y a des gens qui vont s'en vouloir de s'être fait berner, d'avoir prêté de l'argent, investi de l'argent, accepté des choses. Les vrais antisociaux sont excellents. Dans les entrevues, c'est très facile d'embaucher quelqu'un qui vient nous dire des choses qui ne sont pas vraies parce que ces gens-là, effectivement, peuvent mentir sans sentir aucun stress.
Est-ce qu'ils sont conscients de leurs conditions? C'est-à-dire que les émotions, ils en ont très peu. Ils ont une facilité à manipuler les gens qui sont autour d'eux. Est-ce qu'ils sont conscients de ça ou c'est comme l'inconscient puis ils sont tout simplement juste leur propre personnalité puis ils évoluent dans notre société?
Sont tout à fait conscients. Sont tout à fait conscients et pour se donner meilleure conscience, ils vont avoir toutes sortes de raisonnements du genre s'il est assez stupide, pourquoi est-ce que je viens lui dire, ben il mérite de se faire voler de l'argent. Ou c'est ce genre de raisonnement-là que la personne va avoir. Ou encore, ben dans notre société, c'est celui qui est le plus brillant des deux qui va frauder l'autre. Donc ça va être moi. Fait que c'est une façon d'exprimer, de tourner ça à l'envers pour en faire une qualité.
Est-ce que la science est penchée sur, je ne sais pas moi, les statistiques concernant les antisociales, les psychopathes, les sociopathes? Est-ce que c'est genré, ça, ces déterminations-là? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont comme ça?
Oui, un peu plus. Il y a définitivement plus d'hommes pour deux raisons. Vraiment, les critères sont plus basés sur l'agir. Donc, à partir du moment où quelqu'un agit, sa colère, où quelqu'un agit, il y a plus de chances de rencontrer les critères et qu'on le définisse. Mmh. Donc, les hommes sont plus portés à agir leur colère, ça, c'est clair. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes antisociaux, c'est clair. Par contre, l'équivalent chez les femmes, ça serait des femmes avec des personnalités limites ou borderline, qui sont moins dangereuses. Ces personnes-là vont plus souffrir eux-mêmes que faire souffrir les autres. Mais il y a une forme de colère qui peut se manifester autrement.
Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie normale, entre guillemets, avoir une conjointe, un conjoint, avoir des enfants, puis que tout l'aspect familial, ça puisse bien aller?
Absolument, absolument, absolument. Un exemple que je vous donnerais, c'est le procès actuellement en France de l'individu qui a anesthésié sa conjointe, puis qui l'a fait violer par plein d'hommes. Ce que je disais sur ça, c'est que oui, ça prend une perversion. Ça dit que lui-même, quand il faisait ses annonces sur Internet, il disait « Êtes-vous en mode viol comme moi? » Donc, c'est clair que c'est un sadique qui prend plaisir à forcer des gens, à les humilier, tout ça. Mais on a beau avoir une perversion, il y a plus de gens qu'on pense qui ont des fantasmes sadiques ou pédophiliques ou tout ça. L'important, c'est de ne pas l'agir puis de ne pas nuire à personne. Donc, à partir du moment où on l'agit, on nuit à quelqu'un d'autre, on utilise un autre être humain pour assouvir nos besoins, on est aussi antisocial. Et c'est clair que ce gars-là était antisocial. C'est clair que ce gars-là passait énormément de temps sur les réseaux sociaux à monter ses affaires, à communiquer avec d'autres. Et pendant tout ce temps-là, il était capable de donner le change pour avoir une vie relativement normale avec une conjointe, des enfants, un travail. Et ça lui servait presque de couverture. Un antisocial va tout faire pour pas se faire prendre. Un antisocial n'a aucun intérêt à se faire prendre. Donc, il est capable de mener deux vies en parallèle s'il est moindrement intelligent.
Puis mettons là que quelqu'un vous écoute dans son char en ce moment puis il dit « Il me semble que je reconnais certains traits de personnalité, ça me fait un peu capoter. Tu peux-tu demander à consulter pour être diagnostiqué psychopathe? »
Bon, écoutez, si quelqu'un dit ça, il l'est déjà moins.
Bon, génial, c'est une bonne nouvelle.
À partir du moment où quelqu'un se remet un peu en question, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que c'est déjà bon signe? Il l'est probablement pas trop. Parce que les vrais antisociaux vont dire, oui, je suis de même, puis c'est quoi le problème? Tout le monde devrait être comme ça, ou tant pis pour les autres s'ils le sont pas. Les gens se remettront pas en question. ceux habituellement qui viennent nous voir en disant « Coudonc, je suis borderline », trois quarts du temps, ils ne sont pas du tout, par exemple.
Docteur Chamberlain, est-ce que les psychiatres ou encore les docteurs en psychologie, quand vous avez des gens comme ça à l'intérieur de votre cabinet qui se confient de leur désir de perversion, est-ce que vous, parce que là, vous êtes limité par le secret professionnel, qu'est-ce qui fait en sorte que vous pouvez lever ce secret professionnel-là quand vous avez ce type d'individu-là qui se confie à vous avec des choses absolument atroces?
Oui. C'est très, très strict, notre obligation de confidentialité. C'est pas un droit qu'on peut invoquer. On a une obligation qui est très stricte et qui est balisée. Ça pourrait surprendre les gens dans la population à quel point c'est strict. Mais il faut comprendre que si c'était pas strict à ce point-là, les gens ne nous le confieraient pas. Si le moindrement, ils savaient qu'on va aller en parler, on va aller les dénoncer, on n'a aucun moyen de pouvoir traiter ces gens-là, de pouvoir faire de la prévention. Donc, les critères que la loi a mis, on peut libérer de l'information seulement si on est sûr qu'il y a un danger imminent, donc qui va se produire là, sur une victime identifiable et un danger de mort ou de blessure grave. Et c'est le seul cas où on peut libérer de l'information.
Fait que quelqu'un vous moment... dit « j'ai tué », vous ne pouvez pas dénoncer.
Non. On ne peut pas dénoncer à moins que ce soit un tueur en série qui prépare d'autres choses, puis qu'on est capable de dire que le danger est imminent, donc bientôt, la victime identifiable et que ce soit un risque de blessure grave. Et ça peut paraître très, très restrictif dans notre possibilité, mais il faut comprendre qu'on est mieux que ces gens-là viennent nous voir, nous le confient en sachant qu'on n'en parlera pas, qu'on essaie de faire quelque chose, que ces gens-là restent avec ça puis qu'ils n'en parlent jamais. C'est pour ça que c'est difficile de savoir où mettre la ligne. La loi l'a mis, ça prend des circonstances très précises. Je vous donne un exemple d'un cas que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'avait dit « mon patron... je l'haïs, mais j'y ferai rien. Par contre, si le congédie, je vais le tuer. » Fait que, à quel point c'est vrai, on peut jamais le savoir. Mais il n'y a pas de danger imminent. Mais si jamais j'apprends que son patron veut le congédier, là, je vais me poser la question. Et là, la loi permet de libérer l'information à la victime potentielle et aux agents de la paix pour prévenir ça.
Docteur Chamberlain, moi, je suis animateur de radio, puis il y a très peu de choses qui m'empêchent de dormir. Parfois, je peux entendre parler d'histoires tristes et tout ça, mais le soir, le ménage se fait dans ma tête, puis je suis capable de bien dormir. Quand vous recevez ces gens-là dans votre cabinet, vous entendez leur histoire. Parfois, ça peut être des cauchemars aussi qui vous racontent. Puis là, vous êtes un être humain. Est-ce que vous ramenez de la job à la maison dans votre tête des fois?
Toujours, c'est sûr. Parce que faut tolérer un certain niveau de stress. Par exemple, ne serait-ce que les gens qui ont des idées suicidaires, il y a 1% des gens qui vont avoir des idées suicidaires qui vont passer à l'acte. C'est pas beaucoup, 1%. On peut pas détenir de force 100% de ces gens-là. On peut pas faire de la prévention non plus. La loi permet pas qu'on va détenir quelqu'un qui est à risque. Donc, oui, des gens vont nous parler de leurs idées suicidaires, vont nous dire qu'ils sont suicidaires, mais qu'ils passeront pas à l'acte en ce moment, qui ont ça, dans notre tête, on se dit, bon, c'est correct, le risque n'est pas trop grand, mais si jamais il prend de l'alcool ce soir, le risque va augmenter. Fait que c'est évident qu'on n'appellera pas l'ambulance pour les faire interner comme ça, c'est facilement, là. Ça en prend beaucoup. Mais des fois, on revient en se disant, j'ai-tu bien fait? Est-ce que j'aurais dû être plus proactif? Mais quand on est plus proactif, on brime des libertés, on contraint des individus à faire des choses, ce qu'on n'aime pas faire, puis souvent, ce que les individus vont refuser de collaborer. Fait que, oui, il y a des bouts qu'on revient un peu à la maison en se disant, est-ce que j'aurais dû en faire plus? Ça, c'est clair.
Là, vous devez trouver ça bizarre avec mes questions. Là. C'est vous qui êtes sur la chaise pour une fois. Là. Mais est-ce que vous êtes plus méfiant envers la société en raison du fait que vous rencontrez des gens qui ont certaines problématiques?
Non, je pense pas. C'est sûr qu'on a un biais de sélection là, à force de voir des gens comme ça. Mais je pense pas là. Ça c'est comme n'importe quelle branche de médecine. Là, je pense pas que les chirurgiens pensent qu'il y a plus d'appendicite parce qu'il y en a tous les jours. On est quand même capable de faire la différence.
D'accord.
Oui. Par contre, on sait que ça existe. On est moins naïf parce qu'il y a des gens qui se promènent dans la vie en disant mais ces affaires-là n'existent pas, c'est juste dans les journaux. Mais on sait que ça existe. Oui.
On
peut en croiser.
On parle en passant avec Gilles Chamberlain qui est psychiatre. Est-ce que vous avez le réflexe de vous auto-diagnostiquer? On dirait que moi, je ferais votre job. Là, je passerais mes journées à me demander si je suis folle. C'est vrai.
Ça, c'est le propre à tous ceux qui vont étudier en médecine dans les branches de la santé. Là, quand on arrive, mettons, dans les maladies respiratoires, on va tous se diagnostiquer à un moment donné. Fait qu'en psychiatrie, c'est encore plus facile parce que les critères sont un peu flous. Là, on n'a pas comme des marqueurs, là, comme la pression, des choses comme ça. Puis faut voir aussi que la personnalité d'un individu va changer en fonction de est-ce qu'il est plus déprimé, il est plus de bonne humeur, est-ce qu'il a consommé de l'alcool. Fait que oui, on peut se retrouver dans plein de choses, ça, c'est sûr.
Ouais, puis dans le cas des docteurs en psychologie, Je ne sais pas si c'est le cas pour ce qui est des psychiatres, mais ce qu'on m'avait raconté, c'est que régulièrement, ces gens-là doivent se confier à d'autres collègues.
Pour enlever le poids.
Oui. Oui, effectivement, effectivement. Des professionnels de la santé dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, qui eux aussi consultent, c'est pas rare. Il n'y a pas de honte à consulter, au contraire. Consulter, c'est comme s'entraîner. Des fois, on en a besoin parce qu'on a besoin de soutien, ça devient comme plus de physiothérapie là, pour récupérer de quelque chose. Mais consulter pour travailler sur soi, c'est comme aller s'entraîner. Tout le monde peut en bénéficier.
Docteur Jean Berland, votre thérapie est terminée. Vous pouvez partir en paix. Vous reviendrez quand vous en aurez besoin. Merci beaucoup, Dr. Chamberlain.
Merci, au revoir.
Au revoir. L'excellent Dr. Gilles Chamberlain, qui est psychiatre. On parlait des psychopathes, des sociopathes. On parlait des antisociales référence à Wade Wilson, qui est un cas sur les réseaux sociaux, là, bien honnêtement. C'est quelqu'un qui ne semble pas avoir beaucoup d'émotions, qui a tué deux femmes de sang-froid. Je vous racontais tout à l'heure que pour être sûr et certain qu'une des deux femmes soit décédée, il aurait reculé et avancé sur elle en voiture entre 10 et 20 fois pour être sûr et certain qui l'achevait. Et ce gars-là s'est ramassé en cours, puis il a été déclaré coupable de deux meurtres, et il va passer...
C'est peine de mort.
C'est peine de mort, donc il va passer le reste de sa vie en prison. Mais il y a des femmes qui ont pris connaissance de qui était Wade Wilson. C'est pas Deadpool, même s'ils ont le même nom.
Il l'appelle le Deadpool Killer,
ouais. Mais il y a des femmes qui ont pris connaissance de cet individu-là, puis ouais. qui l'ont mis sur les réseaux sociaux, puis sont devenues fanatiques, folles de cet individu-là, tellement qu'on demande aux autorités de le laisser partir parce que c'est peut-être parce qu'il a mal été aimé quand il était jeune. Mm. Ces femmes-là semblent avoir
un surplus d'empathie, en fait.
De l'empathie envers cet individu-là, alors que c'est visiblement quelqu'un qui a très peu d'émotions.
Ouais.
Fait qu'on se posait la question.
Il y a comme une différence, par exemple, entre être empathique à l'histoire de quelqu'un, prendre conscience de ce qu'il a fait exactement. Puis tu sais, quand t'es rendu à contacter le juge, on a un texto qui est entré tantôt qui nous disait « Je me suis pognée sur Internet avec une fille qui avait un groupe carrément qui s'appelait Save Wade Wilson. » Elle me disait que c'était le plus beau, le plus gentil, sans même le connaître réellement. Elle disait que c'était un coup monté par sa blonde qui était innocent, même si elle avait avoué les deux meurtres. Il y a du monde qui sont débiles, par exemple.
Oui, puis les signes nazis qu'il y a dans sa face, là,
de
mémoire, c'est pas des bons signes à
non,
avoir.
Non, mais c'est là. Ça, là. C'est parce que t'as pas des bonnes valeurs de base, généralement.
Tu sais, tes références, là, si tu tripes sur ce gars-là, tes références par rapport à l'histoire doivent être erronées quelque part.
Oui, oui. Mais quand t'es rendu à te le faire tatouer, là, c'est parce que c'est plus que d'avoir une pensée de temps en temps, c'est de l'assumer complètement.
On va te poser la question, que penses-tu des éclairages de Dr. Chamberlain concernant les psychopathes, les sociopathes, les antisociales?
Mais là, j'ai repéré du monde autour de moi, puis je suis effrayée. J'ai l'impression que c'est des traits qui sont faciles. Moi, chaque fois qu'on parle de sujet de même, Yann, là, j'ai vraiment une grosse introspection de hey, « si j'ai tel trait, ça veut-tu dire que je suis sujette à, on veut? »
C'est sain de le faire, d'y réfléchir, mais toi, t'as tellement d'émotions qu'oublie ça.
Ouais,
là,
c'est ça, je suis pas psychopathe.
Mais des antisociales, j'en ai déjà rencontré. T'sais, est-ce que c'est des antisociales diagnostiquées médicalement? Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas docteur en psychologie, mais j'ai déjà vu des gens qui correspondent exactement à ce que Dr. Chamberlain mentionne.
Moi
c'est pour
aussi.
Ça que j'avais des questions très précises. Ouais. À savoir, ces gens-là sont-ils capables d'avoir une vie ordinaire, une vie familiale?
Tu fais quoi avec ce monde-là? C'est fascinant.
Tu évites ces gens-là. Moi, j'ai toujours évité ces gens-là. J'ai le cas d'un, entre autres, que tu as probablement côtoyé dans ta vie, Audrey. Il ne travaille pas ici, soit dit en passant. Et ce gars-là était capable d'être le gars le plus formidable, mais d'être la pire merde de la planète, mais sans éprouver aucun remords. Il faisait souffrir énormément de gens autour de lui et n'avait jamais aucun remords.
Mais ça, c'est
un
fascinant.
Un gars extrêmement brillant qui était capable de voir quelqu'un qui était en difficulté à côté de lui, mais ne ressentir absolument
rien. Ça faisait
rien,
pas un pli.
Même des fois, le torturer encore plus sur ce qu'il venait de vivre.
Mais ça, je pense que pour des gens qui sont super empathiques, super éponges à émotions, c'est dur de comprendre que c'est possible. Puis c'est là, puis écoute, sans excuser ces femmes-là, parce que je trouve ça épouvantable, mais c'est là que, ironiquement, j'ai de l'empathie pour ces femmes-là en me disant, bien, probablement que pour eux... Quelqu'un peut réellement changer, quelqu'un peut réellement travailler sur lui, quelqu'un peut réellement avoir une deuxième chance, tu sais. Sauf que là, c'est ça, là, il y a comme la gravité d'acte, là, quand t'as tué.
Ouais.
Pour moi, il n'y a pas tant de deuxième chance possible. C'est super personnel, là,
mais selon les
j'ai de la misère avec ça.
Selon les statistiques, c'est 3 personnes sur 100 qui pourraient correspondre à. Ça veut dire que sur 100 personnes que tu connais, il y en aurait 3.
Oui.
Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont en prison. Là. Des gens qui évoluent autour de nous autres.
Qui sont libres.
Oui.
C'est très intéressant. Puis écoute, il y a une question moi, qui me traite encore en tête, puis j'ai pas osé la poser à Gilles Chamberlain parce que... Mais non, mais je me demande s'il faut que tu te sentes mal de triper ou d'admirer, tu sais, ce genre de personnes-là. J'ai vraiment... Quand je parlais du billet, là, des films, puis des séries, puis, tu sais, je parlais pour ma génération, mais on a été élevés avec ça, là, la télé, puis l'imaginaire, puis ces gars-là qu'on mettait de l'avant, en fait, là, tu sais, par leur côté, justement, un peu badass, puis mystérieux, puis qu'on excusait, parce que souvent, je veux dire, bon, il a donné l'exemple de Dexter, mais prends n'importe quelle série ou film, ces gars-là, je veux dire, par leur passé, on excuse leurs actions, là. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a un biais cognitif, des fois.
OK. Je vais te ramener à des lectures de l'auteur Eckhart Tolle.
Okay.
OK. Je t'en ai déjà parlé d'Eckhart Tolle. Je pense que je t'en parlais la semaine passée. Lui, il dit « Sors de ton corps puis observe-toi tel un individu bienveillant.
Oui.
Puis regarde-toi aller. Puis normalement, tu devrais être capable de répondre à tes questions. Pourquoi tu es comme ça? T'as-tu raison de t'en vouloir de faire ci? T'as-tu raison de t'en vouloir de faire ça? » Au lieu de rester toi, là, en disant, regarde, pourquoi je trippe sur ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Sors de toi, puis regarde-toi aller. Observe-toi. Puis Eckhart Tolle mentionne souvent ça dans ses livres.
C'est tout un processus, ça, par exemple.
C'est un processus. Puis il y en a, tu sais, qui se disent...
C'est pas ça vendredi soir.
Il y en a qui sont incapables de l'imaginer, mais tu sais, quelqu'un qui est tout le temps négatif envers lui-même. Tu le sais que tu es négatif, mais tu ne t'observes pas.
Ouais.
Puis dans quelles circonstances que t'es négative, tout le temps? Pourquoi tu réagis de même? Pourquoi tu as tout le temps le même maudit pattern? Tu sais, Eckhart Tolle, c'est pas un génie, là. C'est quelqu'un qui a écrit des livres. Moi, j'adore les livres d'Eckhart Tolle, puis ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais ces petites techniques-là de juste t'observer, là, puis de te dire, attends un peu, là, pourquoi tu fais ça tout le temps? Pourquoi tu tombes tout le temps dans les mêmes patterns? Pourquoi tu te chicanes tout le temps avec la même personne, puis tu gardes cette personne-là dans ta vie? Puis sois bienveillant, conseille-toi toi-même. C'est ce qu'il dit? Puis ça marche.
Il y a une affaire d'instinct là-dedans aussi. Là. Mais non, c'était profond comme sujet. C'était bien trippant. Docteur Gilles Chamberlain, en passant, vous allez retrouver cette entrevue-là sur le blvd.fm.
Qu'est-ce qu'a dit Mel? Salut la gang, j'ai été aux prises. J'ai été prise en couple avec un pervers narcissique. Ouais, ça, c'est souvent les ex. Hein?
Non, mais attends, le pire, c'est que tu t'en rends compte souvent quand tu es sortie de là.
Oui, et dans son cas à elle, son pervers narcissique a été diagnostiqué antisocial. Elle a dû rester car elle avait un enfant avec lui. La chose qui a fait que j'ai pu partir, c'est quand il a voulu nous tuer, l'enfant et moi. Ils sont tellement manipulateurs, ça n'a pas de sens. En plus, je suis hyper sensible et empathique. Ouch! Donc, Mel, elle a passé au cash, là.
Et mon Dieu, oui, puis ça, c'est pas une situation légère, on s'entend, là. Mais c'est vrai, par exemple, que des traits comme ça aussi pointus, quand t'es dedans, Dr. Chamberlain a raison, là, la manipulation est tellement grande que souvent, tu t'en rends pas compte puis t'excuses certains comportements.
Chris qui dit « Salut, je me souviens d'avoir vu une étude qui avait recensé les métiers avec le plus de psychopathes et ça ressemblait à ça. Animateur de radio, avocat, chirurgien, chef d'entreprise, enquêteur, politicien. Oh, » ouais.
Spécial, hein?
Ouais, en même temps, ça me surprend pas.
Ben, moi non plus, ça me surprend pas particulièrement, sans généraliser. Là.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui dit « J'écoute beaucoup de true crime, mais je crois que le but n'est pas de mettre le meurtrier sur un piédestal, mais plus... en mémoire de la victime. Ouais. Je pense que ça dépend comment c'est fait, par exemple.
Bref, c'est un super de bon sujet, l'entrevue avec Dr. Gilles Chamberlain sur les psychopathes, les antisociales et les sociopathes. Sociopathes sera disponible sur notre site Internet, blvd.fm, ou encore sur l'application. Avec l'application, ça se fait quand même assez vite, les amis. Téléchargez-moi ça maintenant, 10h59. On revient.
Ce segment d'émission, présenté par...
All right, 11h03. On envoie-tu les gens au rempart?
Je pense que oui. Mais en fait, on leur conseille d'aller au rempart.
Le hockey des remparts est de retour au Centre Vidéotron avec Gab, notre collègue qui anime tellement bien les soirées des remparts avec ses autres collègues. Mon chum Jordan aussi qui est là. Grâce à Boulevard 101, vous pourriez gagner votre paire de billets de saison pour aller encourager votre équipe préférée. Et à cela, ben nous, la gang, on ajoute le kit fans numéro 1 qui va comprendre les casquettes, les mains mousses, les sacs de sport à cordon et les rondelles, bien entendu. Ça inclut 32 matchs à domicile, dont Donc, la poursuite de la rivalité contre Shawinigan, notre espoir de gagner contre Rimouski et Chicoutimi, le populaire match de boulevard un peu plus tard cette saison. Audrey va sûrement être là.
C'est sûr.
Va sûrement faire la mise au jeu officielle et même les sièges, vos sièges en fait, qui seront réservés en cas de présence en séries éliminatoires. Donc, pour courir la chance de gagner vos billets, vous n'avez qu'à aller inscrire le score fictif du jour sur le belvd.fm. Et le score, je vous le donne, c'est 2-1 contre les Olympiques de Gatineau. Et le gagnant va être annoncé dans Gravel dans le retour ce vendredi. Donc, une paire de billets de saison plus le kit fan numéro 1 pour deux personnes, les amis.
Tu sais que demain, tu auras officiellement ton nom de lutteur pour le match de vendredi. T'es-tu... J'entendais Jeff un matin chialer sur le fait qu'un lutteur, ça devrait choisir son propre nom, puis son propre costume, puis son propre ci, puis son propre ça. T'es-tu insulté? T'es-tu...
pas du tout.
Correct
non?
Avec le fait qu'on a géré ton costume puis que les auditeurs choisissent ton nom?
Tu sais quoi? Toutes les femmes de ma vie me gèrent.
OK.
Et je vis très bien avec ça.
Ben, on vit bien avec le fait de te gérer
puis
aussi.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai tout le temps le dernier mot.
Oui, quand même. Mais je pense
que ça fait pas
une
affaire.
De respect,
ouais.
Ben oui.
T'sais, le string que vous m'avez choisi, j'ai décidé de pas le prendre.
Oui,
ça va être ça. Ça va être un genre de boxeur, là, peut-être un peu plus long, là, des culottes courtes, mettons.
OK, ben, c'est correct.
Mais pour le reste, je serai bien déguisé.
Mais le nom, va falloir que tu l'acceptes parce que c'est les auditeurs qui choisissent en ce moment.
On est rendu à 309 personnes qui seront présentes au Centre Horizon ce vendredi pour le gala de lutte Luttons contre la fin. C'est en collaboration avec la Bouchée Généreuse parce que tout l'argent des billets que vous allez acheter, ça va directement à la Bouchée Généreuse, plus les commandites de nos commanditaires qu'on nommera dans les prochaines secondes. Audrey, si tu le veux bien, on devrait être capable de donner 10 000 ce soir-là, si on est bon, si on continue de travailler fort à la Bouchée Généreuse. Donc, c'est des milliers de familles qui vont bénéficier de ça.
Oui, puis pour vrai, soyez pas gênés. Là, c'est pas un événement privé. Là. Vous pouvez sur le point de vente aller acheter vos billets. C'est une vingtaine de piastres. Ça va directement à 100% à Bouchée Généreuse. Prenez un petit verre avec nous autres. Voir Yann, soit gagner ou se faire péter, là, dépendamment de comment ça va virer. Mais ça va vraiment être une belle soirée. Puis oui, Passion Informatique qui a donné 100 piastres. T-shirt Image Express sur la côte de la Pente Douce qui a donné aussi. Pèlerin Inspection qui donne 500 $. Simon Laberge qui donne 1000 $. Expert Finition 2020, 100 $. Fait que tous des gens qui participent à donner directement des dons à la Bouchée Généreuse.
David Beaupré, 100 $. Puis on a 7e Ciel aussi qui est là-dedans.
Absolument. Pour ce qui est du nom de lutteur, hier, c'est le Marceau Pilami qui a passé en finale.
OK, le Marceau de viande s'est fait tasser?
Le Marceau de viande s'est fait tasser. T'es content,
merci.
Là, hein?
Là, oui.
T'es content.
Ben, les enfants vont être là.
Pour aujourd'hui, puis j'en reviens pas que c'est serré de même, parce que moi, c'est mon rêve que ce nom-là passe en finale. Aujourd'hui, c'est Marceau Piqueur contre Marceau Polo. Mais moi, Marceau Polo, là... Je veux vraiment que ça soit ton nom de lutteur. J'imagine tellement la foule. Tu sais, Reg, j'imagine Reg, ton coach, qui fait crier la foule. Marceau, Polo, on va être malade.
Ouais. Je pourrais mixer, tu sais, mettons, quand c'est moi qui crie Marceau, ben
oui.
Ils disent Polo, puis là, je l'assomme à
chaque
fois.
Imagine comment ça serait hot.
Ouais.
Mais là, c'est entre vos mains, les éditeurs, parce qu'au moment où on se parle, Marceau Piqueur et Marceau Polo sont littéralement 50-50.
50-50.
Pas 51-49, là, 50-50. Fait que allez voter et demain, ben, ce sera la finale, je l'espère. Marceau Polo contre Marceau Pilami.
Là, hier, je m'entraînais avec un coach de MMA.
Oui.
Là, il me disait de conserver mes distances. Mais c'est dur de conserver tes distances avec un lutteur parce que c'est souvent du corps à corps.
Oui.
Mais le problème, c'est que si, mettons, je le pogne par l'épaule puis j'arrive pour lui donner un coup de poing,
oui.
Tu comprends que lui, il est déjà rendu avec sa portée, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il est déjà rendu dans ma face, là.
Ben à base, je pense qu'il y a un positionnement de bras qu'il faut que tu gardes pour protéger ton corps, là, ta ligne de vie principale. Là.
Ma ligne de vie.
Ben oui, c'est le même qui appelle ça pour vrai.
OK.
Tu savais pas?
Mais je risque-tu quelque chose ce soir-là, moi? Là?
Ben, moi, j'ai vu une vidéo où Steve magazine des 2x4. Honnêtement, je sais plus à quoi m'attendre pour vendredi.
Le bidon d'essence, c'était peut-être un peu too much.
C'était très intense. Je pense qu'il s'est laissé emporter. Au moins, il s'est fait ramener à
avec
l'ordre.
Avec Matériau Lavoie. Matériau Lavoie qui... Matériau Audet, excusez-moi, qui devait être bien surpris de voir un lutteur débarquer là, puis d'acheter des trucs pour le combat de vendredi. La porte va servir à quoi? Hein?
Écoute, ça sera une surprise. Genre,
acheté...
c'est pas... Moi, je suis juste inquiète.
Il a acheté un crochet, il a acheté une porte,
ouais.
Il a acheté une chaîne,
ouais.
Il a acheté un marteau.
Tu te sens bien encore en ce moment? Moi, je veux juste te dire que j'ai prévu refaire mon RCR dans les prochaines heures, juste au cas il arrive quelque chose vendredi. Capable de t'aider.
Chose sûre, c'est que je reculerai pas. Ça va se passer ce vendredi au Centre Horizon. On a 309 billets de vendus. J'aimerais bien qu'on se rende jusqu'à 400. Si vous avez jamais vu de la lutte, les amis, là, allez voir ça. Vous allez avoir tout un spectacle. Il n'y a pas juste moi, bien entendu, il y a 7 combats professionnels de lutte. Vous allez avoir du fun. Le band rock de la station va être là. C'est Big Muff. Il va avoir tous les animateurs et les animatrices de la station. Puis il va avoir aussi un service de bar.
Donc, ça va être il
va y avoir de la musique, il va y avoir de la lutte, il va y avoir de l'ambiance. Puis un vendredi soir à 20h, ça se fait bien.
Mais oui, ça va être une super belle soirée. Puis moi, encore une fois, ce que je trouve hot, c'est que tu acceptes de te faire péter pour la bouchée généreuse.
Donc, merci beaucoup à notre principal commanditaire, la CNSST.
C'est ça, exactement.
Ça te fait rire, toi.
Mais non, mais ça me fait rire parce que tu t'es mis dans la marde. Faut que tu assumes rendu là.
Mettons que petit chum, il t'annonce qu'il fait ça, tu dis quoi?
Non.
Non?
Ben là, moi, je vois qu'il s'entraîne vraiment fort, mais s'il s'entraîne de la même façon que toi, j'ai dit non.
Je me suis entraîné hier.
Yann, tu lèves des poids, c'est pas de même que tu fais des culbutes, t'as pas compris encore. C'est pas de la boxe, là, c'est de la lutte.
Et je vais passer au travers.
Oui, convaincu. On se voit samedi matin, si t'es encore en vie.
11h10, on vient. Rage Against le matin. Le matin. Je vous dis que la pain chaud travaille extrêmement fort pour nous autres. On a parlé d'un dossier la semaine dernière, ou peut-être l'autre semaine d'avant, concernant l'accessibilité à avoir un médecin très rapidement.
Ouais.
Et beaucoup de gens nous ont écrit en disant c'est pratiquement impossible de voir un médecin très rapidement. Je sais que Denis en avait parlé aussi. Toi, t'as trouvé un truc?
Ben en fait, ce matin, en toute innocence, là, je vous dirais pas que c'était voulu, j'ai appelé le guichet d'accès aux médecins de famille parce que je me suis rendu compte que j'étais encore inscrite après 5 ans. J'ai toujours personne qui m'a rappelé. Sauf que j'étais inscrite dans la région de Montréal parce que mes parents habitaient là.
Ouais.
Quand on m'a inscrit, bref, on a mis l'adresse de mes parents à l'époque. Tout ça pour dire que là, je suis plus là pendant tout. Fait que je me disais, il faudrait peut-être que je change la région, avoir quelqu'un proche de moi. Et puis ça marchait pas sur le site. Fait que j'ai lâché un coup de fil. La madame a été super fine. Puis je me suis dit, hey, c'est peut-être un truc qu'on peut vous partager si vous êtes à la recherche d'un médecin de famille, puis c'est difficile en ce moment où vous attendez depuis des années. Elle m'a proposé, quand on s'est parlé, d'ouvrir un peu, si on veut, mon esprit à autre chose qu'un médecin de famille. C'est-à-dire, c'est depuis le 15 avril de cette année, en passant, là, vous l'avez vu, on a tellement jasé le fait que les infirmières praticiennes en première ligne pouvaient faire la même job que certains médecins. Mais moi, ce qu'elle m'a proposé, c'est carrément, hey, juste te dire, ça peut aller plus vite si tu décides d'accepter que ce soit une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, peu importe, ou un médecin résident au lieu d'un médecin d'expérience qui te prend. Fait que ça peut être une option qui fait que c'est un fast pass, là, comme à la ronde. Là. Tu vas attendre peut-être moins longtemps que les gens qui veulent un médecin de famille régulier, je vais dire le généraliste. J'ai trouvé ça intelligent.
OK, parce... je fais quoi? Je vais où?
Bien, en fait, moi, j'ai carrément appelé le GAMEF. Vous avez le numéro de téléphone quand vous googlez, là, dépendamment de votre région. Là,
GAMEF.
Il vous donne, ouais, GAMF, le guichet accès médecin de famille. Puis moi, carrément, elle m'a dirigé, elle a mis à jour mon dossier avec moi. Ça a été bien plus rapide par téléphone que sur le site, pour être bien honnête. Là. J'avais peur d'attendre des heures, puis ça a pris 10 minutes, même pas. Puis elle a été vraiment, vraiment bonne au niveau de l'information. Là, c'est sûr qu'elle m'a dit, si tu as des problèmes, en attendant, elle m'a référé à tout ce qu'on connaît, là, le 811 et compagnie, là, pour éviter les urgences. Mais en frais vraiment de si vous n'avez pas de problème de santé puis vous êtes en liste, lâchez donc un coup de fil ou allez sur le site. Question d'élargir les possibilités puis d'accepter, si vous êtes à l'aise, que ce soit infirmier, infirmière, praticien, praticienne ou un médecin résident qui puisse vous voir. Ce pas des gens qui sont moins compétents, là, on s'entend. Là. C'est des gens qui vont quand même vous amener dans le système de santé si le besoin est là. Puis tu sais, moi, je commençais à réfléchir dans les dernières semaines parce que mine de rien, bien, j'étais à un âge personnel où, un, j'ai toujours pas de médecin de famille, mon chum non plus. En fait, lui en avait un. Il a pris sa retraite et il n'a pas redirigé sa clientèle. Fait que mon chum s'est ramassé à nouveau dans le guichet en attente. Et puis éventuellement, si on veut une petite famille, tu sais, c'est des choses auxquelles tu penses. Fait que j'ai trouvé ça super intelligent puis j'ai l'impression que c'est pas une information qui se promène. Fait que je voulais vous la partager. Si vous êtes en attente encore en ce moment, puis ça fait 2-3 ans, vous êtes sur le guichet puis pas de nouvelles, bien, lâchez donc un coup de fil pour accepter que ce soit peut-être autre chose qu'un médecin généraliste finalement qui puisse vous recevoir. Là.
C'est très cool. Sinon, c'est clicsanté.ca, ça peut être la même chose?
Bien, clicsanté, c'est plus pour la prise de rendez-vous. Ça, c'est si vous avez un besoin immédiat, je vais te répondre oui, mais moi, je parle vraiment de si tu es en attente d'un médecin de famille au Québec en ce moment, puis tu es dans le guichet d'accès au médecin de famille, c'est des années d'attente, là, dépendamment des régions où tu es. Bien, ça peut être une possibilité, puis c'est que c'est cette année, là. C'est dans toute la réforme de première ligne qu'on essaie d'être
très
plus
cool.
Rapide. Fait que non, ça peut faire la job pour
vrai. Les auditeurs qui nous écrivent au 418-971-1021, médecin résident, moi, je le confirme, j'ai fait ça pour mes enfants.
Mais je trouve ça vraiment hot. Puis tu sais, elle te le dit, la dame, là, il faut que tu sois à l'aise, mais c'est des gens qui sont tout aussi compétents là, pour les problèmes de la vie, les problèmes de base. Là, c'est une entrée. Fait que ton entrée, ce soit un médecin qui ait 20 ans d'expérience ou un médecin résident. Puis là, c'est plate, ce que je veux dire, c'est un gros préjugé, mais je jasais avec la madame ce matin, puis je disais même, crime, j'ai même l'impression qu'une infirmière praticienne ou un médecin résident qui commence est peut-être même plus attentif, des fois, à sa clientèle, tu sais. Fait que non, très à l'aise avec ça. Fait que j'ai ouvert mes horizons pas à peu près, puis j'espère avoir un appel bientôt.
OK, Lou. Hey, je t'ai partagé un article ce matin sur nouvelle tendance qui n'existait pas, là, genre 15, 20, 30 ans. Le fameux white noise qu'on oui. donne à nos enfants pour qu'ils puissent s'endormir. Nous autres, on leur chantait des petites chansons.
Oui.
Moi, au contraire, ça les faisait pleurer. Fait que je faisais juste les flatter le dos. Hein.
T'as pas une belle voix?
Non,
ça
non,
marchait
non,
pas.
Je leur flattais le dos. Je leur racontais des histoires. Des histoires qui étaient inventées. Des fois, la mère de mes gars, elle m'écoutait et elle disait « Mais t'es complètement fou. » Mais ils comprenaient pas ce que je disais. Fait que ils faisaient juste rire. Puis comme ça, je réussissais à les endormir. Mais là, de plus en plus, tu me parlais qu'il y avait du white noise qu'on mettait dans la chambre des enfants pour qu'ils puissent s'endormir. J'en reviens pas.
Mais c'est une étude, en fait, qui a été faite, puis je trouve ça super intéressant. Puis en même temps, là, faut pas capoter, là, faut pas partir en peur, là. Je veux dire, il y a une étude qui contredit une autre étude tous les jours, là. Mais moi, dans ma famille, puis dans ce que je connais autour de moi, ma mère a une garderie pendant 25 ans, les bruits blancs, puis il y a pas juste ça en passant, il y a des bruits roses, des bruits gris, bruns, il y a des bruits de toutes sortes
de
couleurs.
OK, mais le white noise, c'est un genre de...
Oui, oui. Puis dépendamment des fréquences, puis la force du bruit, c'est des bruits de différentes
couleurs. Puis il y en a qui dorment avec des ventilateurs.
Ah oui, c'est ça. C'est vraiment juste de mettre un bruit qui est plus grand que ce que tu as comme ambiance, ce qui fait que ça va aider souvent les jeunes enfants à dormir à l'extérieur aussi. Mais tu sais, party de Noël, là. Moi, je me souviens, là, le premier Noël de mon neveu, là, il y avait ça, là, un petit bruit dans la chambre, ce qui faisait que nous autres, on pouvait fêter en bas, faire nos affaires, puis lui dormait comme un bébé, là, tu sais. Fait que ça marche super bien. Et il y a une récente étude qui est menée par The Sleep Doctor qui dit que, bon, il y a 37 % des parents à la base qui indiquent que leurs enfants ont besoin d'un bruit de fond pour s'endormir, peu importe c'est quoi. Ventilateur, musique, name it. Par contre, la méthode la plus populaire à 45 %, fait que la moitié du monde met justement ce genre de bruit blanc-là, soit à radio, comme dans la neige, là, soit sur le téléphone directement sur Spotify. Il y en a qui mettent des fréquences, il y en a qui mettent sortes d'affaires, mais là, les experts ont révélé dans ces études-là qu'il y a des inquiétudes par rapport à ces bruits-là parce que ça pourrait avoir des effets néfastes sur le développement du langage des bébés.
Le langage, puis la dépendance aussi.
Exactement. Ben oui, parce que, ben oui, veux pas, je veux dire, c'est sûr que. Oui, mais ça, Yann, en même temps, moi, j'accroche moins à ça parce que si ton enfant a une suce ou une doudou, ou un toutou sur lequel il stick pendant 5 ans,
ouais.
Cet effet de dépendance-là, il l'a pareil.
Oui, je sais, mais mettons que ton enfant dort ailleurs puis il n'a pas son fameux white noise, il ne s'endort pas.
Oui, mais là, en même temps, tu l'as sur Spotify aujourd'hui, le white noise. Tu peux pas allumer une vieille TV qui griche. Là,
tu vas à Cancun, tu veux que ton enfant de 3 ans dorme, fait que tu amènes ton Spotify.
Ben non, mais absolument.
OK, hey, j'ai un truc pour toi. Juste de pas mettre de white noise à naissance, mettons.
Oui, mais là, ça, c'est ça. Oui, oui, mais comme je te dis, moi, je suis tellement pas dans le jugement par rapport à ça, Yann, parce que whatever works...
Non, mais je veux dire, les médecins disent de pas faire ça, là.
Oui, mais là, il y a comme... Hey,
moi, je suis dans le jugement. Vous
oui,
nuisez à vos enfants.
Non, c'est ça, là. Faut comme... Moi, je suis là pour te rattraper, là. Non! Il y a des études qui disent que c'est bon aussi parce que ça facilite le sommeil.
Il y a des études qui disent que c'est mauvais. Ouais.
Et c'est ça. Mais c'est intéressant, par exemple, ce qu'ils disent, puis ça peut faire du sens. Parce que c'est monotone, un bruit blanc. Ou n'importe quel bruit, là, qui est toujours le même. C'est monotone, puis ça fait en sorte que la cartographie acoustique qu'on appelle d'un enfant se développe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variante. Puis ces variations-là sont super importantes pour que les enfants développent les différents sons, que ça se développe dans le cerveau. Fait que t'es mieux d'y mettre, mettons, une petite toune acoustique ou des bruits de vagues. Fait que c'est jamais les mêmes notes.
Ben, mettons que tu fais rien, là. Tu fais juste fermer la porte, là.
Ben, ça va être le bruit ambiant de la maison. Ça va être des bruits. Puis ça va être aussi bon pour le cerveau, selon cette étude-là.
Ben, d'après
là,
moi,
là.
Oui, là. C'est parce que l'humain est... C'est bâti de même, là, sans white noise dans les oreilles.
Hein. Oui, mais c'est pas... Encore une fois, là, je dis, si tu changes tes bruits de fond tous les jours, tout va bien.
Tu sais que moi, ça a été le combat hein, avec mes deux enfants. Là.
Pourquoi?
Je voulais pas que mes gars aient de lumière dans leur chambre lorsqu'ils s'endormaient.
Là, j'imagine
la
que
fameuse,
la mère des enfants
la fameuse
pas
veilleuse,
qu'il y ait peur.
Là,
ouais.
Ben oui. Et là, les enfants vont avoir peur. Ben, aujourd'hui, là, les gars ont 10 puis 8 ans. Là, puis si leur mère oublie une lumière dans la maison puis ça rentre juste dans le bas de leur porte... Là,
ça leur tape ses nerfs.
Salut, tape ses nerfs. Ils veulent dormir dans le noir le plus complet.
Mais tu sais, chacun ses habitudes, chacun ses trucs. Je veux dire, rendu là.
Ah, c'est des modes que tu me parles, là.
Mais totalement, c'est des affaires qu'on essaie, puis c'est prouvé que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'études, tu vois, qui vont dans le sens que c'est bon pour la profondeur du sommeil d'un enfant. Mais je veux dire, rendu là, tu testes bien ce que tu veux. Moi, je dors avec un air climatisé l'été, puis je dors super bien que ça. Puis quand l'air clim est plus là, m'a dit que ça fait une différence dans mon sommeil, parce que là, j'entends toutes sortes d'affaires que j'entends pas d'habitude.
Il y a Pat qui dit, moi, je prenais du chloroforme pour les enfants. Ça peut marcher aussi, mais...
Pour le sommeil?
Ouais. Hein? c'est peut-être pas conseillé. Perso, je suis incapable de dormir sans bruit blanc. J'ai le sommeil tellement léger que j'entends tout ce que... J'entends tout et je ne dors pas profondément.
Ben c'est ça. Moi, mettons... Là,
donc, vous avez créé une habitude.
Ben c'est comme... Oui, mais c'est comme n'importe quoi rendu là. Peut-être qu'en jeune âge, c'est bon de varier les sons. C'est réellement... Ça a un impact sur le cerveau. Là. Ça, je dis pas le contraire. Je suis pas professionnel.
Vraiment, l'être humain, il est bien fait. Là. Il n'y a pas besoin de ça à naissance pour bien dormir.
Ben non, mais tu développes... Il y en a tellement des trucs, Yann.
Non, chez moi, avec
là...
vos modes.
T'en as sûrement appliqué plein des
on
modes.
On s'ostine ça encore demain?
Oui, j'aimerais ça. On poursuit ça. Qu'on s'ostine demain.
OK, raccroche.
Toi, raccroche.
Non, toi, raccroche.
Salut. Là.
Jean Leloup, voyageur. On se retrouve avec Pascal Cévé de l'autre côté.